Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, une marque que tout le monde croit connaître, Michelin.
Ah oui, Michelin. On pense tout de suite pneus, guide gastronomique, le bonhomme blanc.
Exactement, Bibendum. Mais si je vous disais que derrière tout ça, il y a aussi des courses cyclistes, des avions de bombardement et même des trains.
C'est ça qui est fascinant. On a une image de Michelin comme une entreprise très, très installée.
Presque un peu conservatrice.
Oui, un peu tranquille. Alors qu'en fait, son histoire, c'est une suite d'innovations de rupture, parfois complètement dingue.
Et pour explorer ça, notre source est tout aussi surprenante. Ce n'est pas un magazine économique, non. C'est un article qui s'appelle « Sur les traces de Michelin ».
Un article rédigé par un certain Dumont.
Et publié sur le site du Cartoclub Aveyronnais.
Voilà, une association de collectionneurs de cartes postales. Et c'est ça qui donne toute sa saveur à cette plongée.
Ah oui, parce que tout l'article est illustré avec des séries de cartes postales d'époque.
C'est ça. L'auteur nous propose des balades visuelles qui nous transportent. Du coup, notre mission, c'est de redécouvrir Michelin avec ce regard unique. Pas juste l'industriel, mais le pionnier, le visionnaire qui a façonné la mobilité.
Alors, allons-y. Le point de départ, d'après Dumont, c'est 1889.
Oui, les frères André et Édouard Michelin, ils reprennent l'entreprise familiale à Clermont-Ferrand.
Et la boîte est au bord de la faillite.
Complètement. À l'époque, ils font des pièces en caoutchouc, pour l'agriculture surtout. On est très très loin de la Formule 1.
Et leur premier produit un peu connu, ce n'est même pas un pneu, c'est ça?
Non, c'est un patin de frein pour vélo. Un truc appelé « The Silent » pour faire moins de bruit.
Un début modeste, donc.
Très. Mais l'étincelle, le vrai tournant, ça arrive un peu par hasard.
Racontez-nous ça.
Un jour, un cycliste anglais arrive à l'usine. Son pneu, un Dunlop, est crevé.
D'accord.
Et à l'époque, les pneus sont collés sur la jante. C'est un cauchemar à réparer. Il faut tout décoller, réparer, recoller, attendre que ça sèche.
L'enfer. Ça prend des heures, j'imagine.
Exactement. Et Édouard Michelin, il observe ça. Et il a une intuition.
Laquelle?
Il se dit, l'avenir, c'est de rouler sur de l'air. C'est évident. Mais tant que c'est si compliqué à réparer, ça restera un produit de niche.
Il faut simplifier l'usage.
Voilà. La clé, ce n'est pas tant d'inventer le pneu, mais de le rendre pratique. Et là, il a l'idée. Du pneu démontable. Réparable en un quart d'heure.
L'idée qui change tout. Mais bon, une bonne idée, ça ne suffit pas. Il faut la prouver.
Et le meilleur moyen de prouver un truc, c'est la compétition.
La course.
La meilleure des pubs. En 1891, ils équipent un coureur, Charles Théron, pour la première course Paris-Brest-Paris.
Une épreuve mythique. 1200 km.
Une épreuve de dingue. Tous les autres ont des pneus pleins ou des pneus collés.
Et le pari est gagnant, j'imagine.
Au-delà de tout. Théron crève plusieurs fois, mais il répare en quelques minutes et il repart.
Et à l'arrivée?
Il gagne, avec plus de 8 heures d'avance sur le deuxième.
8 heures?
Oui, 8 heures. La démonstration est tellement écrasante, le succès commercial est immédiat. Le monde du vélo est conquis.
D'accord, donc le vélo, c'est fait. L'étape suivante logique, c'est l'automobile. Comment ils s'y prennent?
Avec la même méthode. La preuve par la course. En 1895, ils fabriquent une voiture.
Ah oui, l'éclair, c'est ça?
C'est ça. Ils l'engagent dans la course Paris-Bordeaux-Paris. Le but, c'est pas de gagner, c'est juste de finir, de prouver que le pneu supporte une voiture.
Mais ils comprennent aussi qu'il ne suffit pas d'avoir la meilleure technologie.
Exactement. Il faut aussi conquérir les esprits, l'imaginaire.
Et c'est là qu'arrive ce coup de génie marketing.
Précisément. 1898, exposition de Lyon. Édouard Michelin voit une pile de pneus et dit à son frère « Regarde, avec des bras, ça ferait un bonhomme. »
C'est fou de se dire que ça part de là, d'une simple remarque.
L'idée est née. Ils en parlent au dessinateur Au Galop, Marius Rossillon, de son vrai nom, et il leur dessine ce personnage fait de pneus qui boit une coupe pleine de clous, sous le slogan « Nunc est bibendum ».
C'est maintenant qu'il faut boire. Le bonhomme Michelin, Bibendum, est né.
Et c'est un des plus vieux logos du monde. Il donne une âme, un visage à un produit purement technique.
C'est ça. On n'achète plus juste du caoutchouc, on achète un compagnon de route, un gage de sécurité.
C'est toute la force du truc. Et cette idée de vendre une expérience, pas juste un produit, ça va les amener à leur autre innovation majeure.
En dehors du pneu, bien sûr.
Oui, le fameux guide Michelin, en 1900.
Le petit guide rouge.
Au début, c'est un petit livret distribué gratuitement aux automobilistes.
Et il y a quoi dedans?
Des infos pratiques, où trouver de l'essence, comment changer un pneu, une liste de garagistes. Et puis, quelques hôtels et restaurants.
Attendez, si je comprends bien la stratégie derrière, le but du guide, ce n'est pas juste d'être sympa. L'idée, c'est de donner envie aux gens, de voyager, de faire des kilomètres et donc...
d'user leurs pneus.
C'est exactement ça.
C'est une stratégie d'une intelligence redoutable.
C'est brillant.
Pour vendre des pneus, il faut que les gens roulent. Et pour qu'ils roulent, il faut lever les freins au voyage. La peur de la panne, de pas savoir où dormir.
Le guide crée le besoin, en fait.
Il le crée, voilà. C'est du marketing de contenu avec un siècle d'avance.
C'est quand même un peu fou de penser que toute l'institution de la haute gastronomie, les étoiles, les chefs qui dédient leur vie à ça, tout ça a commencé comme un simple stratagème pour vendre du caoutchouc.
Ça montre leur vision à très long terme. Ils ne pensaient pas au prochain trimestre, mais à la prochaine décennie. Ils construisaient leur propre marché.
Alors, on a le vélo, l'auto, le guide de voyage. On pourrait se dire qu'ils ont déjà de quoi faire.
Ah mais non! Comme le montre bien l'article du Carto Club, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont littéralement décoller.
Direction le ciel, hein ?
C'est ça. Au début du XXe siècle, l'aviation, c'est un truc de pionnier un peu fou. Michelin y voit un potentiel énorme et décide de s'investir pour stimuler l'innovation.
Avec le prix Michelin d'aviation, en 1908.
Oui. 100 000 francs or, une somme colossale pour l'époque.
Et le défi était immense. Un vol aller-retour entre Paris et le sommet du Puy-de-Dôme.
Avec un passager. Un exploit. Et il sera réalisé le 7 mars 1911 par Eugène Reynaud. C'est un événement national.
Et ce n'est pas tout.
Non. Il y a aussi la Coupe Michelin internationale qui récompense le vol le plus long. Mais là où ça devient vraiment surprenant, c'est en 1912.
Avec les prix de l'aérocible.
Oui, des concours de précision. Les pilotes doivent larguer des projectiles sur une cible au sol. Et là, on peut se demander...
Pourquoi, Edige, pourquoi un fabricant de pneus s'intéresse à la précision des bombardements ?
Exactement. C'est là qu'on voit que Michelin n'est pas un simple sponsor, c'est un acteur avec une vision stratégique, voire politique.
C'est-à-dire ?
À l'époque, l'état-major français est très sceptique sur le rôle militaire de l'avion. Pour eux, c'est juste pour la reconnaissance.
Et Michelin veut leur prouver le contraire.
Exactement. En organisant ces concours, ils font du lobbying. Ils montrent que l'avion est une arme offensive, l'arme du futur. Ils anticipent les conflits à venir d'une manière assez spectaculaire.
C'est assez troublant quand on y pense. Une entreprise privée qui pousse pour la militarisation de l'aviation.
C'est une autre époque, avec une vision très patriotique du rôle de l'industriel. Et ça va devenir très concret pendant la Première Guerre mondiale.
Là, ils ne font plus que pousser l'idée.
Non, ils deviennent un acteur majeur de l'effort de guerre. Ils construisent, avec Breguet, près de 2000 avions bombardiers.
Dans leurs propres usines.
Oui, pour les armées françaises et américaines. Et ils créent même leur propre école de pilotage.
C'est incroyable. Constructeurs d'avions de guerre, mais ils n'ont pas abandonné le sol pour autant. Ils se sont même attaqués à un domaine encore plus inattendu.
Après le ciel, retour sur les rails. Mais à la sauce Michelin, évidemment.
La Micheline.
La Micheline, en 1931. Un autorail léger, rapide, et dont la grande particularité, c'est qu'il roule sur des pneus.
Des pneus sur un train. Mais comment ça marche ?
Alors, le pneu ne touche pas directement le rail, il s'userait trop vite. Il est dans une roue en métal qui assure le guidage. Mais c'est le pneu qui porte la charge.
Et qui absorbe les vibrations, j'imagine.
Voilà. Et l'article de Dumont propose justement une balade en Micheline avec une série de cartes postales. On imagine tout de suite le changement. Fini le vacarme, les secousses.
Le silence et le confort.
Toujours le confort. C'est leur obsession, leur signature, appliquer leur savoir-faire, le pneu, à un autre domaine, pour améliorer l'expérience du voyageur.
Et ça a bien marché, la Micheline ?
Oui, ça a connu un vrai succès. Elle a circulé sur le réseau français jusqu'en 1952.
D'accord. Donc on a les pneus, le guide, les avions, les trains. On a l'impression qu'ils ont vraiment tout couvert.
Presque. Il manquait une dernière chose, la plus visible peut-être.
Ah oui ?
Ben, si vous donnez aux gens les moyens de voyager, l'envie de voyager, il faut aussi s'assurer qu'ils ne se perdent pas.
Les panneaux de signalisation.
Exactement. À partir de 1931, Michelin se met à fabriquer des bornes et des panneaux. Et comme d'habitude, avec une exigence de qualité.
En lave émaillé de Volvic, c'est ça ?
Oui, sur un support en béton armé. C'est pour ça qu'on en voit encore aujourd'hui au bord de nos routes de campagne. Ils sont quasi indestructibles.
C'est vrai. Et avec ça, la boucle est bouclée.
Totalement. Michelin a créé un écosystème complet. Ils vendent les pneus pour rouler, le guide pour savoir où aller, les cartes pour l'itinéraire, les panneaux pour ne pas se perdre.
Ils ne vendent plus un produit, ils vendent le voyage en entier.
C'est ça.
Alors, si on fait le bilan de tout ça, ce qu'il faut retenir, pour moi, c'est que Michelin, c'est bien plus qu'un fabricant de pneus. C'est une ambition, une vision totale de la mobilité.
Absolument. Et ce qui est super, c'est la façon dont notre source, le Carto Club Aveyronnais, nous raconte ça.
À travers les cartes postales.
Oui, ces fameuses balades. Ça nous rappelle que ces petits objets du quotidien, ce sont des archives extraordinaires. Une carte postale d'une Micheline, ce n'est pas juste une image. C'est un témoin de l'histoire industrielle, sociale.
C'est une très belle façon de voir les choses.
Et d'ailleurs, Dumont conclut en soulignant la richesse du site de cette association. Ça montre que des trésors d'histoire comme celle-ci, il y en a plein qui dorment, qui attendent d'être redécouvertes. C'est une invitation à être curieux, quoi.
Et pour finir, ça me fait penser à une chose. Une pensée à méditer.
Je vous écoute.
Le guide Michelin a été créé comme un outil marketing gratuit pour stimuler le marché principal, celui des pneus.
Oui.
Aujourd'hui, on est inondé de services gratuits sur Internet. Alors la question que je me pose, c'est en arrière, quel service gratuit qu'on utilise tous les jours se cache le vrai produit, celui qu'on nous pousse à consommer sans même qu'on s'en rende compte.